Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, et où j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouveau passionnément vôtre. Je reçois pour invité le photographe Jean-Paul Villegas. Bienvenue sur notre antenne à Fréquence Mistral à Digne. Ça vous a fait faire quelques kilomètres. Bonjour.
Oui, bonjour. Oh, quelques kilomètres, ça va. Je viens de Provence, donc là, le chemin n'est pas très long pour venir ici.
Alors, c'est une première pour vous de présenter votre amour de la photo à une radio.
Oui, je pense même que c'est une première, en tout cas en direct, d'avoir un échange sur une radio.
Eh bien, merci d'être là. Donc, vous venez d'un petit village.
Un petit village de Provence, La Manon, qui est un village à une dizaine de kilomètres de Salon de Provence, entre Salon et Sénas, au Cavaillon. C'est un village magnifique avec un lieu qui est connu par pas mal de personnes, qui s'appelle le site de Calès, où il y a c'est un ancien village troglodyte, hein, voilà, qui compte encore plus d'une centaine de grottes, et c'est un site qui est visité par nombre de personnes pour sa beauté, sa tranquillité et sa variété, j'allais dire écologique, oui, botanique, les lumières qu'il y a aussi, voilà.
Alors la photo, c'est quelque chose qui n'est pas très ancien pour vous, apparemment. Vous avez eu un autre travail avant celui-ci.
Oui, en fait, bon, j'ai toujours fait de la photo, mais comme chacun peut en faire, avec un appareil photo, et puis quand même un plaisir certain à le faire. Mais le temps me manquait de développer, et il y a quelques années, lorsque j'ai cessé mon activité principale, j'ai voulu d'abord m'orienter vers la randonnée montagne. Il me manquait quelques expertises et quelques diplômes. Et à ce moment-là, dans la vallée du Bès, une amie m'a dit, bien, puisque tu fais bien des photos, est-ce que tu pourrais faire des cartes postales pour l'association du Bès, l'association de la vallée du Bès? J'ai dit oui, pourquoi pas. Puis ça m'a plu, j'ai fait ces cartes postales. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à avoir une activité professionnelle, mais qui garde toujours le plaisir intact.
Donc c'est un peu le hasard, parce que vous vouliez faire un métier dans la montagne, c'est-à-dire accompagnateur en montagne?
Oui, je connais un accompagnateur montagne, c'était toujours Jean-Pierre Brevel, voilà, avec qui j'avais fait connaissance et qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, et notamment Golvorsi, mais on en parlera un peu plus tard après, oui, à propos du Land Art, et qui, voilà, avec qui j'avais envie de faire quelque chose, et je souhaitais créer une agence de randonnée montagne. Ça ne s'est pas pu, mais c'est à ce moment-là que Françoise Putz, qui est aussi quelqu'un de connu à Digne, m'a dit, ben, si tu faisais des photos pour mon association, ce serait chouette. Et c'est parti de là.
Françoise Putz, qui est aussi très, très sportive et qui a toujours eu le goût de la randonnée en montagne, du ski.
Oui.
Oui, hein, oui. Et vous, donc, vous êtes aussi happé par la nature. C'est un domaine qui vous tient à cœur.
Ah, c'est un domaine dans lequel effectivement je me sens vivre par le fait d'y être, tout simplement. J'ai la chance d'être dans un endroit admirable que j'appelle le paradis. C'est vrai que c'est un paradis où on entend que les oiseaux, les chevaux, le vent, quelquefois dans les arbres. Et puis la nature que j'aime aussi parce que j'ai des activités physiques. J'aime pas trop le mot, ça fait un peu gymnastique volontaire. Mais c'est vrai que la randonnée en vélo, il y a pas longtemps encore, pas mal de kayak de mer aussi, qui m'a fait découvrir beaucoup de rivages méditerranéens avec de la randonnée en kayak. Et puis la course à pied, et puis mille choses qui me mettent dans cette nature.
Et ce qui n'était pas le cas par votre travail. C'était un travail plutôt...
Mon travail, c'est... J'ai travaillé à l'époque, c'était encore les acédiques, et j'étais... Je faisais partie de l'encadrement acédique, donc j'avais soit à diriger des antennes, soit après à travailler dans des projets au niveau national. Donc ça me laissait très peu de temps, Je le faisais de façon beaucoup plus intense, peut-être, mais dans un temps très limité.
Donc plutôt enfermé.
Ah, plutôt enfermé, même si je bougeais beaucoup, surtout les dernières années. Pour mener des projets, je me déplaçais beaucoup, notamment en avion, sur tout le territoire et jusqu'à La Réunion. Donc c'était un enfermement assez agréable.
Alors, vous m'en parliez tout à l'heure hors antenne, c'est pas la technique même du photographe qui vous attire, c'est plus l'œil, c'est plus de chercher les angles.
Oui, c'est d'abord. Il m'arrive de faire des photos sans appareil photo. Je suis quelque part et puis je vois quelque chose que je distingue du reste du monde, parce que la photo, c'est aussi choisir, c'est extraire un élément d'un tout un ensemble. Et tout à coup, je vois une lumière, je vois quelque chose, et je me dis, tiens, ça, c'est une photo. Et je la fais pas parce que j'ai pas toujours un appareil avec moi, mais je suis dans cette démarche-là. Et la technique, qui est quand même une nécessité, même si les appareils ont beaucoup évolué, et favorisent beaucoup de choses, c'est quelque chose qui est subordonné à ça, et qui vient accompagner et quelque part quand même magnifier l'œil ou le cadrage.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme appareil photo ? Est-ce que c'est est-ce que vous êtes tout de suite au numérique ? Il n'y a pas eu l'argentique avant ?
Il y a eu l'argentique avant, oui. À un moment, je développais moi-même mes photos, je faisais mes tirages, donc tous ces ambiances.
Donc avant d'être un professionnel de la photo, vous preniez déjà beaucoup de photos.
Je prenais déjà quelques photos. J'avais une vie professionnelle, familiale, qui me prenait beaucoup. Depuis, tout ça, évidemment, n'est plus. Et je suis passé, alors vraiment, sans aucun scrupule au numérique. Je trouvais ça tellement extraordinaire de balader dans une poche un appareil avec toutes ces possibilités que je n'ai pas rejeté l'argentique, pas du tout. Et maintenant, donc, je suis totalement dans le numérique. Et je ne sais pas si c'est la question, savoir quel type d'appareil j'utilise. J'ai un appareil numérique, un réflexe, un Nikon, qui est un D700 pour ceux qui s'y connaissent un peu, avec en fait deux objectifs. Un zoom et puis un super grand angle. Voilà. C'est tout. Après, un flash. J'ai une perche qui fait 8 mètres de haut pour faire des photos aériennes. Pour l'instant, je ne suis pas passé au drone encore.
Une perche de 8 mètres de haut ?
Une perche, oui, une perche zigogne. Oui, une perche que je monte, un peu comme une canne à pêche qu'on démonte.
Et après, vous commandez ça à distance ?
Je commande ça avec mon smartphone, oui. Oui, j'ai un renvoi par Wi-Fi des images. Je fais mes réglages sur mon appareil photo, sur ma tablette, et puis je prends les photos comme ça au pied du mât.
J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien vous prendre en photo en train de prendre une photo à 8 mètres de haut.
Oui, pour prendre ce type de photo, il faut un drone. Hein. Sinon, c'est trop haut.
Oui, 8 mètres, ça commence à faire très haut. Oui. Oh, ça fait. On va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, avec une chanson que vous avez choisie. On en parle juste après. À tout de suite.
Boîte à lunch. Pour me donner l'espoir, c'est mieux que la Bible. Tes soupers après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre, indulgent comme une mère de tueur. Oh Jenny, ma lueur. J'suis pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leurs plumes. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. J'te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller l'emprunter. Je n'ai que du broyé du noir à tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher, mais laisse-moi dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je vais tenter ma chance parmi un grand mariage d'oiseaux. Jenny, mon ange, quand je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la sœur de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit casseau. Tout ce que j'ai, c'est moi. J'essaye de faire en sorte que quand tu penses à moi, tu te dises que t'aurais pas pu trouver mieux. Cette Christie de vie, je l'ai de travers, c'est bien ça le mystère. Comment t'as fait pour me rendre heureux? À soir, mon beau camion vient te livrer un merci grand comme la mer. Oh Jenny, comme la mer. C'est comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre. Je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux, parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi.
Voilà une très jolie chanson que vous avez choisi de nous faire écouter, Jean-Paul Villegas, photographe. Est-ce qu'on peut revenir sur cet artiste-là, ce chanteur, dire son nom?
Oui, c'est Richard Desjardins. C'est un artiste que j'ai découvert au Québec il y a une dizaine d'années. Le Québec est un lieu où je retourne tous les ans avec une préférence peut-être pour l'hiver, pour le grand hiver, comme on dit là-bas. Et en y allant la première fois, un ami m'a dit, puisque tu y vas, prends-moi le dernier disque de Richard Desjardins. Et je suis tombé, comme on dit là-bas, en amour de ce chanteur qui est un gars extraordinaire, qui est très connu là-bas, qui est très connu aussi en France, contrairement à... Moi, je ne le connaissais pas. Et puis, quand je pose la question autour de moi, on dit, je ne connais pas.
Je connais pas.
Honte
à nous.
Et il retourne à chaque fois au Québec, je me dis... Une fois, je me dis, bon, il faut absolument que j'aille écouter Richard. Donc, quand j'arrive, ben Richard, il n'était pas là, il n'était pas au Québec, il était en France. Et donc, quand je suis revenu quatre semaines après, j'ai vu qu'il était à Port-les-Valence, qu'il chantait. Et là, j'ai fait 400 kilomètres, hein, malgré le décalage horaire, en voiture, pour aller écouter Richard, cet homme qui venait de ce pays que je venais de quitter. Et c'est un type qui vous, comme on dit aussi au Québec, qui vous pogne. Il est avec sa guitare, il peut être avec plus, mais il est debout, il vous prend avec ses mains, il vous lâche plus pendant 2 heures. C'est un magicien du mot, un magicien des idées. C'est un fou furieux que je trouve extraordinaire. Voilà.
Et vous aimez un peu les fous, hein, si j'ai bien compris. Les personnages hors du commun.
Je m'entends bien avec les caractériels.
Oui. Pas facile à vivre pourtant au quotidien.
Je ne vis pas avec eux.
Bon.
Mais je partage... L'amitié ou de l'amour, ça dépend. Hein, oui, voilà.
Alors, vous êtes, on le verra aussi, bien sûr, un amoureux des œuvres d'Arthur Rimbaud, comme beaucoup. Photographe, c'est aussi être sensible à autre chose qu'à la photo. C'est aussi la poésie.
Je viens d'aller voir le film de Salgado qui s'appelle « Le ciel de la terre ». C'est un film, c'est une merveille esthétique et on reste, je crois que ça dure 2 heures, qui est essentiellement en noir et blanc, mais d'une beauté. C'est un film de Wim Wenders et on reste scotché par la beauté de ces images et la beauté humaine de ce photographe. Et je crois qu'au début il dit, ou c'est écrit, je ne sais pas, il dit pour moi, faire de la photo c'est peindre avec de la lumière. C'est ça. Et qu'on peigne des paysages ou des hommes, des hommes qui vivent ou des hommes qui meurent dans les images terribles qu'on peut voir dans ce film. Peu importe, mais c'est vraiment peindre avec la lumière.
Et la peinture, c'est pas un domaine qui vous a attiré ?
Oui, j'ai peint. Ah. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas être un bon peintre, je suis devenu photographe.
C'est une bonne idée. Parce que des fois, justement, je me pose la question de temps en temps, quand il y a tellement beaux couchers de soleil ou les nuages, il y a tellement de belles choses dans la nature ou la couleur des feuilles, oui. On se dit c'est tellement beau, pourquoi le peindre alors que comme ça, naturel, c'est si beau.
Mais c'était parfois si beau que... Il m'arrive d'être devant des choses admirables avec un appareil photo et de ne pas prendre mon appareil photo. Parce qu'il y a des choses qu'on vit et des choses qu'on prend. Et là, je peux rester devant un paysage sans rien faire. Et quand il y a des gens autour de moi qui me disent « Mais pourquoi tu ne prends pas ça en photo ?» Je tends l'appareil photo à la personne qui me dit « Fais-le, tu peux. » Mais moi, non. Je jouis de ce que je vois et de ce que je vis.
Oui, donc c'était une passion, mais en même temps, vous êtes capable de laisser votre appareil photo pour juste l'instant présent.
Oui, tout à fait.
Mais pas complètement le virus où tout doit être sur...
Non, je ne crois pas être un braqueur fou en la matière. Même si je peux faire sur un sujet, je peux à un moment faire beaucoup, beaucoup de photos parce que je peux être dans le duène des... dans l'effervescence de la création. Quelqu'un, quand je dis duende, il y a quelqu'un qui m'écoute, un ami, et qui sait ce que ça veut dire. Et quand je suis pris à un moment, je ne suis plus dans le réel. Je suis entre mon appareil photo n'est que la continuité de moi-même. Et je suis en communication avec ce que je vois. Et c'est ce que je vois qui va commander. Ce n'est pas moi qui décide d'appuyer. Sur la photo, ça va être le modèle, si c'est une personne, ça va être une lumière, ça va être un instant fugitif. Et je ne vais pas, même si quelquefois je peux parfois sembler mitraillé, ça n'est jamais anodin. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui m'a dit, prends, prends, prends. Ce n'est pas mécanique.
Jean-Paul Villegas, photographe, vous aimez la nature, vous aviez envie d'organiser, vous allez souvent en tout cas randonner ou pédaler ou marcher dans ce cœur de la nature, c'est important. On est plutôt. Vous connaissez bien les Alpes de Haute-Provence ?
Je connais bien cette partie Alpes de Haute-Provence pour les avoir parcourues beaucoup.
Et vous parliez du Québec, vous avez aussi beaucoup voyagé. Est-ce que c'était pour aller à la rencontre d'autres paysages puisqu'il y a...
C'est jamais, je ne crois pas, jamais pour aller à la rencontre d'autres paysages. Il y a peut-être deux types de paysages qui me feraient aller, au-delà de ce que je vais dire. C'est peut-être l'Islande et les pays qui ont des volcans. Le volcan, c'est quelque chose qui m'attire. Je n'y vais pas suffisamment, mais j'en ai vu... quelques-uns. Mais en dehors de ces pays-là, je vais vers des êtres humains, en fait. Même si c'est pas eux, après, forcément, que je vais prendre en photo. Et si je vais au Québec, c'est d'abord parce que j'ai aussi un fils, j'ai des enfants un peu partout. J'en ai un au Québec.
Tant que ça ?
Non, au Québec, en Allemagne. Et puis d'autres qui voyagent ou qui sont là.
Combien d'enfants, alors ?
Quatre enfants, voilà. Une en Allemagne avec des petits-enfants, donc je vais en Allemagne. Et puis je vais au Québec, mais quand je vais au Québec, je vais voir certes mon fils, mais je vais aussi voir mes amis. C'est des amis, c'est des gens extraordinaires. Des gens qui sont au bout de la frontière, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des gens, oui, ils sont au bord de l'univers. Ils sont peut-être comme disait l'autre, sur les épaules des géants. Des gens qui sont capables de, j'en pense à un, Guy-Louis Poncelet, qui est un cultivateur, marchand qui cultive des asperges dans l'Outaouais, dans une petite région qui s'appelle la Petite Nation, dans le Québec, qui est marchand d'asperges, et il se dit marchand d'asperges, marchand de rêves. C'est un homme, c'est un Belge qui s'est installé il y a 30 ans avec sa famille, qui est devenu cultivateur, mais qui est en même temps, c'est un cultivateur, c'est un construit, un bâtisseur de maisons en bois, enfin il est capable de construire sa maison, et c'est un poète, c'est un peintre, c'est un scientifique. C'est des gens que des scientifiques viennent voir pour parler avec lui, parce qu'il connaît admirablement la minéralogie de son pays, toute l'histoire géologique de son pays. Donc là, il y a un petit clin d'œil avec le Pays de Digne aussi, qui est un des centres importants de la géologie mondiale. C'est un gars qui est capable de se mettre à la cuisine, de vous faire des choses absolument délicieuses. Enfin, c'est des gens qui sont complets et qui aussi vont par moins 25, moins 30, couper leur bois, bûcher, comme on dit là-bas, dans une forêt qui peut être à ce moment-là très hostile, se retrouver seul dans des milieux. Voilà, c'est ce côté complet, puis ce côté de « on avance, il y a toujours une solution, il n'y a jamais un problème ». Ces gens-là m'étonnent.
Donc, c'est la nature et la rencontre des personnes.
Oui.
Qui est importante.
Sans cela, je ne suis pas... On me dit voyageur, les gens qui me connaissent me disent que je ne suis jamais chez moi. En fait, moi, j'ai l'impression de ne pas être un voyageur parce que je ne vais pas dans des pays, selon l'expression, je vais faire l'Italie, puis après, je vais faire la Thaïlande, je vais faire le... C'est un mot qui me paraît aussi étrange, comme on le disait tout à l'heure, que de dire c'est prosaïque, c'est trivial, mais dire tiens, je vais me faire une fille ou un mec. Mmh. Non, je ne vais pas faire un pays, je vais faire la rencontre de quelqu'un. Et il est important pour moi de savoir que je vais rencontrer quelqu'un d'identifié. Même si je ne le connais pas avant, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui m'attire. Très difficile comme ça d'aller. Donc que ce soit au Québec, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, dans quelques pays d'Europe... J'y vais parce que j'y ai déjà des attaches.
Alors dans les photos que j'ai pu voir un peu sur votre site et sur le Facebook Jean-Paul Villegas, on voit essentiellement des paysages. Est-ce qu'il y a beaucoup de photos de portraits? Vous faites beaucoup de portraits aussi?
Je suis plus un photographe de paysages, oui. Je fais des portraits, oui, c'est moins fréquent. Quand je fais des portraits, ça relève souvent de l'intime, donc du familier, du familial ou de l'amical, et c'est pas des photos que je publie. On verra pas sur mon Facebook des photos de personnes, mais de personnes identifiées ou identifiables, hein. C'est très rare. Sauf probablement pour un de mes fils qui est chanteur de rock, qui a un groupe qui s'appelle Harmonic Generator, qui est un groupe de rock. C'est quelque chose d'assez étonnant. Hard rock, pas trop mon truc, mais il faut un travail extraordinaire. Et là, j'aime aller parfois en concert pour les prendre en photo. Parce que c'est des moments où on capte aussi de l'humain. Même si des fois, l'humain est difficilement supportable pour l'oreille, à cause des décibels, pas de la qualité, évidemment.
Et puis, c'est très différent, j'imagine, de prendre des photos de concert. Les lumières sont particulières. Si ça bouge beaucoup, c'est plus difficile peut-être.
C'est différent. Mm. On verse un peu plus dans l'onirique, dans le rêve, parce qu'il y a des choses qui se révèlent après qu'on ne voit pas au moment où on les prend. Alors après, on peut travailler sur le mouvement. En fait, on peut transformer les difficultés de la prise de vue, on peut les transformer en avantage.
Alors justement, par rapport aux transformations de la photo, il y a la photo qu'on prend, qui peut être réfléchi, qui peut être spontané. Vous êtes un peu dans les deux.
Les deux, oui. Ouais. Oui, oui.
Et après, est-ce que vous jouez beaucoup, parce que maintenant on peut transformer énormément les photos.
Oui.
L'original, est-ce que vous usez et abusez de ces techniques-là?
Je ne crois pas abuser de ces techniques-là. Elles me permettent quelque chose que je trouve admirable. Qu'en fait, avant, on faisait, mais c'était beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile, pour moi en tout cas, dans les laboratoires. Simplement, j'optimise ma photo. Ça veut dire que je ne fais pas de ce travail de composition où on apporte des éléments qui ne sont pas dans la photo. Ça, je ne sais pas faire. C'est un métier, c'est autre chose, c'est une autre forme d'art. Et j'admire ceux qui savent le faire et qui le font parfois bien. Non, moi, j'optimise la photo et je... Et il est important pour moi de le faire aussi lorsque je fais toute une série de photos. Je peux travailler après très très tard parce que je veux rester dans l'ambiance de la prise de vue. Il m'arrive de faire 150, 200 prises de vue et après travailler, c'est long, c'est lourd, c'est beaucoup plus long ce qu'on appelle la post-production en matière de photo. C'est beaucoup plus long que les prises de vue. Et d'y travailler avec beaucoup de soin. En plus, je travaille aussi ce qu'on appelle des panoramiques, c'est-à-dire des photos qui, du fait de leur ampleur, nécessitent plusieurs prises de vue. Et donc, ça nécessite après de recoller les photos entre elles. J'ai juste une image là, comme ça, dans mon village à La Manon. Il y a un arbre extraordinaire, un platane qu'on voit sur mon album Facebook, qui est un vieux platane de près de 300 ans, qui fait près de 30 mètres de haut. 8 mètres de... C'est une cathédrale. Quand on rentre, on a l'impression d'être dans un lieu sacré, quand on est sous ce... Et pour arriver à le prendre, pour arriver à en saisir un peu l'ampleur, je ne sais pas si je suis parvenu, j'ai dû prendre jusqu'à 10 photos que j'ai collées ensuite les unes avec les autres. Donc c'est effectivement, c'est ce travail de post-production peut être très important.
On va venir donc à votre rencontre avec le Land Art. Enfin, c'est d'abord une rencontre avec un artiste, Andy Goldworthy, entre autres, mais il y en a eu d'autres. Comment s'est passé ce travail avec cette personne, Andy Goldworthy par exemple?
Je parlerai plus du travail avec les œuvres d'Andy Goldworthy qu'avec lui-même. Je vais dire quand même comment ça s'est passé. C'est en fait quand j'ai fait la connaissance des deux personnes que j'ai nommées de ce pays, qui est Jean-Pierre Brevel et Françoise Putz. On faisait du kayak de mer ensemble, donc on venait de se connaître. Et ils m'ont dit, tu connais pas derrière Dine? J'ai dit non, je suis jamais venu. Et Jean-Pierre m'a dit, viens donc voir la dernière montagne sauvage d'Europe. Ça m'a beaucoup intrigué. 15 jours après, je suis venu. Et après, je crois qu'il ne se passait pas une semaine sans que je n'y vienne régulièrement pour plusieurs jours dans ce pays. Et la première randonnée que j'ai faite avec Jean-Pierre et Françoise d'ailleurs, eh bien justement, on a été dans les Clus de Péouré. On est monté sur le vélodrome, cette formation extraordinaire, formation géologique. Et après, il m'a dit, bon, on va descendre et on va monter au vieil Esclangon. Tu vas connaître Andy Goldworthy. Je lui ai dit, Goldworthy, je ne connais pas. Qui c'est? Il m'a dit, c'est un artiste du Land Art, c'est un artiste anglais qui vit en Écosse. Tu vas voir ce qu'il fait. Donc, on est monté vers le vieil Esclangon et on est arrivé à cet endroit-là qui est un ancien... Il y a un village abandonné en ruine et dans lequel une maison était remontée et à l'intérieur desquelles Andy Goldworthy, donc cet artiste anglais, était en train de monter ce qu'on peut appeler la rivière d'argile, le serpent d'argile, ce qu'on veut, qui est un mélange de l'argile de tout autour que ces aides aller chercher, qu'il rapportait, qu'il pétrissait pour en faire des pains. Il les pétrissait en les mélangeant avec des cheveux des gens de Digne.
Ah bon?
Oui, qu'ils allaient chercher chez les coiffeurs, simplement parce que c'est un peu comme le torchis, le pisé, comme comment s'appelle ce qu'on utilise en Afrique? Oui, c'est un espèce de torchis qu'on mélange avec de la paille, et c'est la paille qui tient. Et là, ce sont les cheveux qui permettent à l'argile rouge, lorsqu'elle sèche et qu'elle se fissure, de tenir ensemble. Et donc là, j'ai vu Andy Goldworthy qui était là avec toute son équipe. J'ai pris quelques photos, je n'ai pas pu lui parler. Il y avait Nadine Gomez aussi qui était là à ce moment.
Conservatrice du musée.
Et qui était interviewée par Arte Allemagne. Donc il venait faire un sujet sur Andy Goldworthy et dans ce lieu, les Alpes de Haute-Provence. Et c'est là que j'ai découvert cet homme, je n'ai pas vraiment parlé avec lui, c'était Jean-Pierre qui le connaissait, parce que Jean-Pierre le guidait sur les lieux où il pouvait créer des œuvres. Et c'est ainsi que j'ai découvert et le bonhomme et les œuvres de Goldworthy. Et ensuite, Jean-Pierre m'a été en phase de création d'une randonnée sur les refuges d'art, puisque un certain nombre d'œuvres sont ou dans des refuges ou proches de refuges de lieux d'habitation. Il a créé la randonnée des refuges d'art qui part d'Auton, donc à l'ouest, à Tartonne, qui est à l'est, et qui a créé une randonnée des refuges d'art qui, de plusieurs jours à pied, et qui emmenait les gens d'œuvre d'art en œuvre d'art en 7-8 jours, et 120 km à peu près de marche. Et il m'a demandé de rentrer dans son organisation pour faire des photos et puis pour l'accompagner. Et c'est comme ça que j'ai découvert
toutes les œuvres. Donc vous avez fait cette randonnée de 7-8 jours ?
Oui, toutes les... j'ai fait, mais plusieurs fois, une dizaine de fois. Ah oui. Après, j'étais presque un élément de l'organisation. Mmh. J'en profitais, évidemment, puisque j'étais là pour faire les photos, mais je faisais aussi autre chose, voilà, pour participer. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert Andy Golvorsi, que j'ai rencontré après, alors qu'il faisait l'œuvre de la forêt. L'œuvre de la forêt, c'est pour moi l'œuvre majeure d'Andy Golvorsi dans ce pays. Ça se trouve... sous Auton, au bord du Vençon, voilà, dans une ancienne église du village qui s'appelle toujours La Forêt. Et c'est là que je l'ai rencontré une deuxième fois, alors qu'il était en train de monter cette œuvre. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois un souper à Seine-les-Alpes chez Jean-Pierre, et puis une autre fois une conférence.
Voilà, alors en vous écoutant, avec beaucoup d'attention bien sûr, je découvre que, en étant dinoise depuis quand même pas mal d'années, je n'ai pas encore fait ce parcours des refuges, enfin des œuvres d'art.
Des refuges d'art.
Des refuges d'art, voilà. J'ai découvert, oui, à la porte d'entrage, là, il y a des lettres d'or, il y a quelques petites choses... à découvrir. Vous connaissez les portes d'entrage ?
Je ne connais pas les portes d'entrage, c'est où ?
Alors, c'est en allant vers les thermes au départ et ensuite entrage, c'est un petit village.
D'accord. Mais vous parlez des lettres d'or ?
Des lettres d'or, voilà. Ah non, ça ne fait pas partie du circuit, en fait. C'est simplement les refuges.
Non, il est vrai que sur la randonnée des refuges d'art, qui sont des randonnées donc sur les arts, les œuvres d'art de Andy Golvorsi, on rencontre de loin en loin, parfois même sur les œuvres d'Andy Golvorsi, la marque d'un autre artiste qui est un Suisse et qui s'appelle Herman de Vries, et dont on voit aussi les œuvres au musée, au musée Cassini, comme on voit d'ailleurs un serpent d'argile sur tout un mur du musée de Digne, également. Donc, et à ce que vous appelez entrage, oui, moi j'appelle ça l'œuvre des thermes, c'est ça, où c'est une espèce de cône, de galet, dans une maison, et le cône, on le voit par un immense oculus par lequel on rentre. Non, c'est pas ça.
Ça, sur la route des Thermes, c'est à Saint-Pancras, sur la route de
Saint-Pancras. Oui, c'est sur le chemin de Saint-Pancras. Mmh. C'est ça. Mmh. Donc, il y a cette œuvre-là. Mais j'avais pas vu les lettres d'or.
Les lettres d'or, ouais.
Mais peut-être que Herman de Vries, dont j'ai parlé, a créé une œuvre là-bas aussi.
Mmh. Oui, il y avait un mot à trouver, le pourquoi, quoi. Enfin, voilà, il y a quelques petites questions qui sont posées, il faut chercher, c'est amusant et c'est curieux, voilà.
C'est gravé dans le rocher ?
Voilà, oui.
Ah, c'est en lettres d'or aussi ?
C'est peint dans le rocher, je ne sais pas, c'est en lettres d'or.
Ah bah alors c'est Herman de Vries.
Oui, voilà.
Je ne crois pas qu'il y en ait un autre qui ait osé faire ça.
Donc vous avez fait ce parcours plusieurs fois, vous avez pris beaucoup de photos ?
Énormément de photos.
Et il en est sorti un livre ou comment on les trouve, ces photos ?
En fait, il y a quelques photos qui ont paru sur le bouquin qui est sorti. Je pense que c'est le musée Cassini qui l'a fait. Voilà, où il y a quelques photos, mais qui sont purement indicatives. Ce n'est pas réellement un travail d'art que... qui a été fait avec ce bouquin, c'est un travail pour indiquer où aller, comment aller, etc. etc.
Parce que par rapport aux artistes comme Andy Golvorsi, il faut une autorisation, c'est un travail en partenariat, comment ça se passe ?
Le travail de Andy
Golvorsi...
De
photographe et vous, voilà.
Entre moi et Golvorsi.
Voilà.
Pour l'instant, ici, c'est les photos que j'ai faites sur les œuvres d'Andy Golvorsi et sur la randonnée des refuges d'art. En fait, je ne crois pas l'avoir vendu une fois ou peut-être une fois ou deux, peut-être pour un magazine, mais sans plus. C'est plutôt une photothèque personnelle. Je n'ai pas trouvé encore de moyen de valoriser, parce que c'est mon métier, je suis un photographe, je suis un photographe professionnel aussi, donc je vends mes œuvres ou je travaille sur commande. Et non, je n'ai pas encore fait un recueil particulier, parce que c'est un investissement. Et pour faire un investissement, il faut aussi avoir une demande.
Parce que par rapport aux droits d'auteur, on parle beaucoup des droits d'auteur dans oui. beaucoup de domaines. Quand on prend l'œuvre d'art d'un artiste oui. en photo et qu'on vend la photo, par exemple, il faut reverser à l'artiste.
Tout à fait. Il faut reverser et à l'artiste photographe et à l'artiste qui a créé l'œuvre. Et je crois que ça a dû se produire une fois. Je crois que c'est Flammarion qui un jour m'a appelé. Ils ont sorti les milieux qu'il faut avoir vus en France. Et notamment, ils ont fait l'œuvre, ce qu'on appelle les l'œufs. Mais en fait, ce sont des sentinelles. Mm-hmm. Les sentinelles de Andy Golvorsi. Et ils avaient sorti celle de Tarton. Et ils m'avaient appelé pour m'acheter les droits de diffusion de l'œuvre. Mais effectivement, ils ont payé aussi Andy Golvorsi mm-hmm. pour ça.
Parce que ces artistes de land art, c'est aussi des... Bon, j'imagine que donc les sentinelles, qu'on a tendance à nous appeler les œufs, ça doit tenir. Alors qu'il y a des œuvres qui sont complètement éphémères. Non. On peut faire des choses avec des branches, des feuilles, ah. Et puis le moindre...
Absolument, absolument. Il y a Andy Golvorsi et a su aussi créer des œuvres. Il a créé là, sur le parcours des refuges d'art, des œuvres pérennes hein, qui sont soit dans des refuges fermés mais dont on peut avoir la clé. Il suffit d'aller la prendre au musée Cassendi et puis on peut même y dormir si on veut. Mais il a fait aussi beaucoup d'œuvres, notamment au bord du Besse, des œuvres qui ont évidemment été emportées ensuite par les flots. De la même façon qu'il s'est travaillé dans l'extrême éphémère. Si un jour... vous avez l'occasion de voir un film qui est absolument magnifique sur Andy Golvorsi, qui s'appelle River and Tide. Rivière et courant et marée.
Je l'ai vu, je pense, avec les... Où on voit aussi dans les clus de la peinture, dans des rochers, non ? C'est ce que c'est pas ça ?
Je ne sais pas, je ne garde pas en mémoire.
C'est toutes les œuvres qui sont faites dehors.
Il en a fait beaucoup au bord de la mer, des œuvres qu'il a faites à marée basse et qui ont été... recouverte ensuite et détruite par la marée.
Il en faisait aussi avec... Je vais reprendre le nom de ce film.
River mm-hmm. and Tide. Tide, T-I-D-E-S. Voilà, qu'on doit trouver assez facilement, je pense. Et aussi, il y a de très beaux ouvrages sur les œuvres d'Andy Golvorsi, qui a aussi un autre talent. C'est un excellent photographe. Et donc, je crois que le premier, le meilleur photographe de ses œuvres, avant moi, c'est lui.
D'accord.
Et il sait les valoriser, les commercialiser. C'est un homme qui est mondialement connu. Hein. C'est quelqu'un qui vit largement, je crois, de son art.
On va faire une petite pause musicale, une deuxième.
Oui.
Ça vous va ou c'est trop tôt?
Très bien.
Allez, on verra ensuite ce que c'est. C'est d'abord la surprise.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Magnifique chanteur, magnifique interprétation, c'est bien sûr Leonard Cohen et sa voix grave et profonde. On est touché par rien que la voix déjà.
Oui, quand je serai grand, je serai Leonard Cohen.
Un grand monsieur de la chanson, il a eu 80 ans et il chante toujours et c'est toujours aussi touchant. Jean-Paul Villegas, on continue cette rencontre avec vous, l'homme, le photographe, amoureux de la nature, des rencontres de l'homme, l'humain. Et vous avez pris des photos de route aussi, j'aime beaucoup. Il y a trois photos magnifiques. C'est aussi une façon, on trouve le beau partout. Même sur le bitume.
Oui, oui. Je ne fais pas de recherche particulière, encore une fois. Je ne vais pas quelque part en me disant « je vais prendre une photo de route ». Mais je roule ou je marche en vélo, n'importe. Et puis, tout à coup, il y a une perspective, il y a une lumière, quelque chose qui se dégage. Et que ce soit ici, en France, en Allemagne, dans l'Europe, au Québec, en Afrique du Sud, puisque j'y fus il y a quelques mois encore. Puis tout à coup, je vois quelque chose qui me paraît évident. Alors je m'arrête et voilà, et je pose en général mon appareil photo au sol, sur la route même. Et je prends la photo ainsi. Je prends pas les photos à hauteur d'homme à ce moment-là. Et j'essaye d'entendre, d'écouter pour être sûr qu'aucune voiture ne vienne au mon dos. C'est des fois assez risqué, mais jusque-là, ça s'est bien passé.
Ben oui, vaut mieux, hein, parce que vous êtes capable de vous allonger sur la route, alors.
Je m'allonge pas.
Non.
Non, je travaille au jugé. Je pose mon appareil sur le sol, mm-hmm, pour être encore plus près du sol, et je prends la photo comme ça.
Et ça fait donc de très belles photos.
Merci.
Donc, pour en voir plus sur vos photos, il faut vous les demander. C'est quand même curieux, cette méthode.
Ben, c'est-à-dire que j'avais un site où j'avais plusieurs milliers de photos et qui, il y a un an de ça, a été détruit par un hacker. J'avais un serveur, un fournisseur qui a été attaqué, qui était au Québec d'ailleurs, qui a été attaqué. Tout a été détruit, y compris leur sauvegarde. Donc, j'avais plus aucune photo et... Quand j'ai voulu reconstruire un site, je l'ai fait avec mon fils qui travaille au Québec et qui travaille dans l'informatique. Et c'est lui qui m'a monté ce site, m'a dit, écoute, plutôt que montrer des milliers d'images en petit, autant prendre quelques dizaines très belles, les meilleures, les plus belles que tu choisirais et les mettre en place. Alors, c'est vrai que ça permet sur mon site peut-être de voir un peu le regard que je porte sur le monde, mais si on veut un peu plus de photos, il faut aller sur Facebook et aller dans la rubrique photos et puis après album. Et là, on en verra beaucoup plus. Ou si un sujet intéresse quelqu'un, je peux envoyer des albums.
Et puis alors, on va parler de cet atelier. Il y a, vous êtes exposé régulièrement dans cet atelier à Aiguière, ou je me trompe?
Non, il s'agit d'un atelier qui est une galerie, un lieu de rencontre, c'est l'atelier Agora.
Agora, voilà. C'est ça.
Qui fait, effectivement, c'est une galerie, mais un centre de rencontre qui est mené par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Baranger, et dans lequel j'ai été artiste, on va dire artiste permanent, pendant un an. Pendant un an, ben, mes œuvres étaient exposées régulièrement toute l'année, quelques-unes, et puis une fois dans l'année, il y avait pendant 3 semaines, une exposition plénière. Voilà. Mais sinon, je garde des relations avec ces gens-là. J'y vais de temps en temps voir ce qui s'y fait et s'expose. Mais pour l'instant, non, je n'expose pas cette galerie. J'ai exposé ailleurs. Mais relativement peu pour l'instant, en tout cas.
Ça fait 5 ans ou plus que vous êtes devenu photographe professionnel?
7-8 ans maintenant, oui.
7-8 ans. Et vous exposez où? Comment ça se passe pour et vous êtes à la recherche? Ça, c'est un peu, il vous faut comment on appelle ça, quelqu'un qui vous sélectionne et qui décide de vous exposer? Comment ça se passe?
Ça peut arriver. J'ai des fois des propositions. J'ai exposé dans d'autres endroits et en fait au bout de quelques expositions où on est très content d'être exposé et puis d'entendre des commentaires sympas, parce souvent les copains qui viennent ou les gens qui vous entourent, mais ça coûte très cher, une exposition, et au bout d'un moment, enfin en tout cas pour ma part, j'essaie de trouver des lieux où je puisse vendre mes photos, où je puisse vendre mes œuvres. Donc là, c'est un peu plus difficile. Trouver des lieux d'exposition, ce n'est pas très, très, très difficile. Hein. On me sollicite ou je sais où exposer. Mais trouver un endroit où on puisse vendre à un prix raisonnable des photos, des œuvres, à ce moment-là, c'est pas même plus de photos, on parle d'une œuvre, déjà encadrée dans les grands formats. Moi, je travaille beaucoup les grands formats, je travaille pas les petits formats. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, je travaille. essentiellement comme aujourd'hui, comme photographe, même si j'ai des œuvres et j'attends le moment propice pour un jour les exposer et les vendre. Je travaille beaucoup sur commande. Je travaille beaucoup avec des peintres, sculpteurs, notamment sculpture. Il y a un peintre que je trouve remarquable qui s'appelle Rayan Prince, qui habite à Gréoux-les-Bains, qui fait des choses absolument, des peintures admirables. Ça, c'est pour parler du 04. Hein. Je travaille aussi avec d'autres personnes. Hein. Et voilà, donc eux me demandent de venir prendre leurs œuvres en photo pour pouvoir soit publier, soit les mettre sur leur site ou sur leurs flyers et leur communication. Et quand c'est possible, c'est un peu plus facile peut-être avec des sculpteurs, les prendre aussi eux dans leur travail. Ça, j'aime beaucoup. C'est un peu plus délicat. Donc, je travaille là-dessus. Ou je travaille aussi avec des personnes qui vendent des maisons de prestige et qui ont besoin de belles photos, de belles maisons.
Ça, c'est sûr que c'est important pour vendre sa maison.
Oui.
Déjà, de la rendre vendable. On voit bien que c'est important d'enlever tout ce qui est trop personnel, enfin, qui personnalise trop la maison.
Oui.
Et effectivement... des belles prises de vue, où c'est un peu des fois mensonger, parce que si on fait en grand angle, on peut donner l'illusion d'une pièce très très grande.
J'espère bien.
Et très lumineuse,
oui.
Que c'est peut-être pas le cas.
Oui.
Il y a des trafics comme ça.
C'est le genre de... Non, c'est pas un trafic, parce qu'on vend pas la maison par correspondance. Non, la photo a pour vertu, comme quand on cherche un emploi et un acte de candidature, c'est pas pour se rembaucher, c'est pour faire venir la personne. Et après que la personne puisse faire le choix. Donc il importe de mettre en valeur sans tricher, mais il est évident qu'un grand angle agrandit. Oui, ça c'est vrai. Et j'en suis conscient. Mais voilà. Mais sinon, prendre une maison avec un petit appareil très réducteur, c'est aussi quelque part tricher, mais dans un autre registre. Voilà.
On va continuer. Donc, les portraits, c'est moins quand même quelque chose que vous faites, ou plus avec vos proches. Pourtant, c'est intéressant aussi le visage de l'être humain. On y voit tellement de choses.
Il m'intéresse, mais je ne les rends pas publics.
Oui. Mmh.
Je travaille, encore une fois, je fais des photos, je fais des portraits avec des amis, avec des intimes, avec de la famille. Mais je ne suis pas le photographe, on va dire, social. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui va me promener dans la rue et qui va voler une photo. En plus, notre époque rend beaucoup plus difficile cela, où on peut prendre une rue et publier une rue que si les personnes sont noyées dans la masse. Mais si elles sont noyées dans la masse, elles présentent moins d'intérêt. Mmh. L'intérêt, c'est souvent l'individu dans la masse. Mmh. Et prendre l'individu dans la masse sans son autorisation, c'est interdit par la loi. Donc, j'ai pas envie de travailler dans le stress, la pression. Et vous avez aujourd'hui, où tout le monde s'expose sur Facebook ou sur d'autres moyens, une sensibilité très paradoxale. C'est que si vous prenez quelqu'un dans la rue, cette même personne qui sera peut-être montrée quasiment nue sur Facebook va vous dire: mais de quel droit tu me prends en photo et je veux que tu effaces. Donc j'ai pas envie de, je veux pas rentrer dans ce genre de peux pas rentrer dans ce genre de stress. La photo n'est pas ça pour moi.
Alors on va venir à la poésie, puisque vous avez amené des textes que je trouve très intéressants. La poésie, c'est en lien aussi avec la photo. Est-ce qu'un poème peut vous inspirer une photo? On peut pas travailler d'après un poème.
Oui, moi je peux travailler d'après un poème, bien sûr. En fait, les sources d'inspiration sont multiples. Hein. Ça peut être quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, comme une lumière va à un moment me happer, une perspective ou un regard, hein, un geste, un corps va pouvoir me happer. De la même façon, un récit, une musique, quelque chose peut me happer. Et s'il y a une poésie qui, dans ma vie, m'a porté, c'est Le bateau ivre de Rimbaud, que j'avais lu étant plus jeune, mais qui m'avait complètement indifféré. Et c'est un jour, je suis retombé dessus et je suis tombé dans un univers de rêves complètement débridé, complètement surréaliste, et qui m'a de suite habité. Je me suis dit, il y a longtemps pourtant de ça, je me suis dit un jour, il faudra que tu fasses quelque chose avec ce poème. Et à un moment, j'avais même envisagé, je faisais de la planche à voile, pas mal, et j'avais envie de demander à un spécialiste, pas un tagueur, mais un chapeur, pardon, de m'éclire le bateau ivre sur ma planche. Finalement, je l'ai pas fait, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et donc, j'ai continué comme ça à me nourrir du bateauisme, simplement en le lisant, ou de temps en temps en achetant un bouquin là-dessus, ou quelque chose. Et puis un jour, je me suis dit, j'avais fait un travail sur l'eau, un travail photo, et je me suis dit, je vais illustrer le bateau ivre. Le bateau ivre, c'est 100 vers, 25 quatrains. Donc, il faut que je trouve 25 photos pour illustrer ce bateau ivre et en faire une exposition. Et j'en avais quelques-unes de photos déjà qui illustraient pour moi les quatrains. C'était pas quelque chose de facile à faire. C'était assez rock and roll. Et il me manquait, par contre, au moins deux photos de bateaux détruits. Et impossible d'en trouver en Méditerranée. Alors je suis parti en Bretagne. J'ai fait 2000 km pour apporter deux photos.
Ça c'est au service de son art. Se mettre au service de son art.
Oui. Mm. J'ai utilisé son art pour bien des plaisirs que j'ai eus aussi, oui. en montant et en me promenant dans ces cimetières marins qui sont extraordinaires et que je ne connaissais pas.
Donc la poésie, vous avez fait cette exposition donc, sur le bateau ivre de Rimbaud, oui. Qu'on peut voir où ?
Chez moi, dans ma chambre, elle est pliée.
Donc vous invitez tous les auditeurs à venir dans votre chambre.
Oui.
En fait, c'est peut-être dommage alors, vous l'avez exposé.
Non, je l'ai exposé, j'ai fait trois expositions, et la dernière d'ailleurs c'était à l'occasion d'un film sur l'eau, un film de Yann Arthus Bertrand à Salon de Provence, et c'est une association qui s'appelait Salon Transition, sur l'écologie, qui présentait ce très beau film qui est pas fait, qui a été produit par Yann Arthus Bertrand et fait par un metteur en scène qui est par un... comment on appelle ça, un producteur, pas le producteur, non, celui qui le fait, c'est un cinéaste,
réalisateur, ouais.
Réalisateur cinéaste, qui était là, qui était très intéressant, et il m'a demandé, moi, d'exposer dans le hall de l'entrée de la salle de spectacle, de cinéma, le bateau ivre, et c'est ce que j'ai fait. Puis après, aussi, dans le plus grand lycée de Salon de Provence, on m'a demandé de l'exposer au CDI, pour les jeunes qui ont fait aussi un spectacle. Et d'ailleurs, j'en profite, lors de ma première exposition à Salon de Provence, dans un bistrot alternatif, bistrot, restaurant, salle de spectacle, salle d'exposition qui s'appelle la Casa Palabra, j'en profite, en ouverture pour le vernissage, j'avais monté un spectacle sur le bateau ivre, et je disais le bateau ivre accompagné par deux jeunes musiciens qui avaient eux-mêmes créé quelque chose pour cette occasion-là. Voilà, l'histoire du bateau ivre.
On continue dans la poésie, parce que vous avez amené des textes. J'aimerais bien que vous me lisiez, par exemple, vous m'avez dit le discours d'adieu du général MacArthur. Ça parle de la jeunesse. Est-ce que vous l'avez soulevé ?
Ah oui, je l'ai.
Voilà.
Voilà ce qu'il disait.
Bien dans le micro, voilà.
Le cher Mac. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour, votre cœur est mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.
Jean-Paul Villegas, merci pour la lecture de ce beau texte, donc discours d'adieu du général MacArthur. Et est-ce que je peux me permettre d'enchaîner avec les fracas de la plaine?
Oui.
Oui, et vous nous direz après qui chante?
Oui.
Voilà, c'est tout de suite.
Combien de café déjà?
C'est donné, mon ami, c'est donné, Maurice.
Tiens, Léa, à tout à l'heure, je réveille. Je fais un tour. Voilà. C'est un tour de plaine.
Ouais. Ouais. Bonne journée, la famille.
Les fracas de la plaine, des oiseaux de malheur qui te disent à la tienne à n'importe quelle heure. Ils ont eu de la veine, ils n'ont jamais eu peur. Ils rêvent sous Tranxen que le monde est meilleur. Fracas de la plaine, des oiseaux de passage qui te disent à la tienne, même s'ils ont la rage. Pour eux la coupe est pleine, avant le troisième âge, il faut noyer sa peine quand arrive l'orage. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux migrateurs qui te disent à la tienne, même sous l'équateur. Y'en a eu à Cayenne, enfermé par erreur. Y'en a même à Phnom Penh et toujours en sueur. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux mazoutés qui te disent à la tienne quand ils sont échoués. Même s'ils ont la haine, ils peuvent plus bouger. C'est pire que des chaînes, leurs ailes sont niquées. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Des oiseaux à la plaine, il n'y en a plus tellement. Quand il y en a un qui traîne, il reste pas longtemps. Il chante à la prochaine, et s'envole en riant. Quand je dis à la tienne, j'y pense tout le temps.
Comment c'est l'huile d'olive, monsieur? 10 euros.
Il était cadeau.
Cadeau, mon Dieu. Vous croyez que ça existe, cadeau, ça?
Putain, il est mort.
On retrouve Jean-Paul Villegas, photographe. On reconnaît les Massilia Sound System, un groupe originaire de Marseille.
Oui, c'est plus particulièrement les Waystar qui est une émanation des Massilia Sound System. Les Massilia ont fait, tout en étant ce groupe-là, on fait aussi des petits groupes. Et là, c'est le groupe, ils étaient deux, Waystar. C'était Gary et Lux B. Lux B est mon frère. Enfin, il était mon frère parce qu'il est mort il y a maintenant 4-5 ans. Et c'est curieux comme j'ai de suite aimé cette chanson par la désespérance qu'il y avait en même temps la beauté qu'elle dégageait. Voilà. C'est pour ça que je te l'ai à l'écouter.
Merci de ce choix. on peut continuer avec la poésie et le lien avec l'art aussi de la photographie. Est-ce que vous voulez bien nous lire un second texte?
Je vous en prie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. C'est un texte qui a été écrit par Charlotte Delbault, qui est morte dans un camp d'extermination.
Difficile de faire un lien après avoir écouté...
Non, c'est la vie.
C'est la vie. Pour revenir à votre art de photographie, vous avez envie d'en venir à... C'est important, vous disiez tout à l'heure, que de reparler de tout ce parcours, ça vous bouleverse un peu.
Oui. Oui, je disais que je ne vis pas avec un rétroviseur et je suis plutôt dans l'instant. Et que le passé, ben, le passé, j'y reviens. J'y reviens pas. Et là, de parler, c'est étrange. Il y a des éléments que j'avais complètement, je dirais même pas oubliés. C'est simplement, ils sont derrière et je ne les regarde pas. Je ne regarde plus, donc ils ont disparu. Je n'en ai plus conscience. Et d'en parler avec vous, d'échanger là-dessus, faire remonter des choses fortes, oui, bien sûr.
Vous êtes beaucoup donc dans la poésie aussi, en musique. Vous avez une sensibilité musicale aussi, bien sûr.
Oui.
Et j'ai cru voir aussi que vous aimiez Krishnamurti, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Des œuvres de Krishna. Oui.
Voilà.
J'ai du mal à le redire.
C'est Judy Krishnamurti.
Voilà.
Oui. C'est un penseur. C'est pas un gourou, c'est pas un grand prêtre, c'est pas une secte. C'est au contraire quelqu'un qui est mort il y a une vingtaine d'années, je crois. Voilà, et qui disait la vie est la vérité d'un pays sans chemin. Mmh. Je crois que ça c'était vraiment ce qui m'a le plus frappé. Et c'est quelqu'un qui a eu un destin assez étonnant, puisque très jeune, il y a des théosophes, c'est-à-dire au début du XXe siècle, oui, ou fin du XIXe, en tout cas, des théosophes anglais qui ont cru voir dans ce jeune indien, un peu le messie, le messie des temps modernes. Et donc, il l'a enlevé à sa famille. Bon, c'était pas un kidnapping, hein. Il l'a enlevé avec le consentement des parents. Il l'a emmené à sa famille, puis il l'a emmené en Angleterre. Ils lui ont donné la meilleure éducation. Parce qu'il sentait vraiment que c'était un esprit supérieur. Et quand il a compris qu'on était en train de faire de lui une espèce, justement, de nouveau messie, lui, il a tout arrêté. Il a rejeté tout ce vers quoi on l'orientait. Et en disant la vérité est un pays sans chemin, il a commencé à faire en sorte que les gens réfléchissent que la vérité n'est pas à l'extérieur, la vérité n'est pas quelque chose de reçu, mais la vérité est quelque chose que l'on ressent et que l'on trouve par soi-même, un chemin que l'on trouve par soi-même. Et entre autres, il disait, par exemple, tout à l'heure j'y pensais un peu aussi, se libérer du connu, c'est-à-dire que chaque instant est un nouvel événement de la vie qui se construit en même temps. Tout se construit, pour moi aussi, ça je le pense férocement, c'est que la vie se construit à chaque instant et elle se détruit à chaque instant. Et que ce que j'ai pu vivre hier, ce que j'ai pu penser hier, n'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est tout ce que je vis, tout ce que je pense et que je réagrège en même temps que je le vis. Et donc, un jour, il y a longtemps, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, un ami m'avait passé un bouquin qui s'appelait « L'éveil de l'intelligence ». C'est un recueil d'échanges entre un, je ne me rappelle plus quel grand penseur occidental, et Krishnamurti. Et ce gros bouquin, qui était un pavé de plusieurs centaines de pages, m'avait fasciné. Parce qu'il ne me donnait pas de recettes. Parce qu'il me disait simplement « réfléchis par toi-même ». Et donc après, je vis pas dans le culte de Krishnamurti, non, mais c'est quelqu'un dont j'ai lu un certain nombre d'œuvres. Et dans la réflexion, m'accompagne. C'est intéressant, parce que je crois pas qu'il écrit quelque chose, en fait. Les gens qui le connaissent bien mieux que moi sauront le dire, mais c'est la plupart du temps, ce sont des échanges. Où il s'avère des échanges avec des groupes de jeunes, de gens de tous âges, toutes conditions. C'était un homme qui connaissait beaucoup de langues et qui a beaucoup voyagé. Et ce qui était intéressant, c'est que quand les gens lui posaient une question, « Monsieur, que pensez-vous de la mort ?» Lui, un des premiers mots qu'il était, c'était « Réfléchissons ensemble ». Et ensemble, ils allaient sur un chemin nouveau. C'est ça qui m'intéresse chez cet homme-là, qui n'était pas un poète, mais un penseur.
Parce que vous êtes quand même sensible aussi à Richard Bach. Oui. C'est quand même des auteurs à message, certaines sagesses.
Oui, mais Richard Bach, là vous faites allusion à un livre.
Au Messie récalcitrant,
oui. Bon, c'est un livre qui peut paraître ésotérique, on a l'impression qu'il y a des réponses à des questions qu'on se pose. Et en fait, moi, je ne trouve pas. D'abord, c'est un livre où il y a de l'humour, où il y a de la poésie, où il y a de... C'est vrai que il y a de l'onirisme, il y a des choses un peu bizarres, un peu mystiques, mais on n'est pas obligé. On n'est obligé à rien, d'ailleurs, dans la vie, hein. On est obligé qu'à ce qu'on accepte. Mais moi, j'ai pris ça à un moment de ma vie comme une musique qui m'accompagnait et qui me berçait. Et il y a quelques éléments, quelquefois, qui me reviennent aussi de ce Messie récalcitrant.
Est-ce que vous avez des projets dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent?
Des projets personnels, des projets, oui, de retour,
oui,
au Québec.
Retour au Québec, c'est un pays qui vous plaît.
J'en ai parlé tout à l'heure, des gens extraordinaires. Et c'est le grand hiver là-bas. Mm-hmm. C'est l'hiver. L'hiver est quelque chose d'extraordinaire. J'ai connu jusqu'à moins 40 une fois. C'est inouï. Là, les choses n'ont pas la même saveur par ces grands froids. Jusqu'à moins 25, même au-delà, je me rappelle, on pouvait aller en forêt, bûcher, passer du temps dehors. Manger dehors, dans la neige, dans le froid, sans un froid, sans être bien. Mais à moins 40, non, on réfléchit et on retourne. Donc il y a un voyage, oui, ce voyage-là, qui est en perspective. Et puis il y a le travail photographique. C'est un travail pour moi étonnant, c'est que j'ai pas de vision, j'ai pas réellement d'objectif. J'avance sans savoir où je vais. Et je me dis, il y a un moment, quelque chose qui va se passer et qui fait que tu vas passer dans une autre dimension. Et aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. Mais je continue à travailler avec plaisir cet art-là.
Est-ce qu'on peut continuer encore? Parce que je n'ai pas envie de vous quitter sans écouter. Certes, vous aviez été gourmand dans la musique que vous avez amenée. J'aimerais bien écouter Maria Teresa.
Ah oui.
Bon, la première, elle est assez courte. Est-ce qu'on peut enchaîner après avec l'écho des fusillés ou,
Oui. Oui, oui. J'aimerais bien que... Alors, oui. Non, c'est bien, oui, Teresa, oui. Et ensuite Vysotsky, parce que c'est quelque chose d'assez fort.
Oui. Alors, dans quel ordre? Est-ce que
peu importe, Omar, c'est très bien.
Bon,
Omar.
Allez. C'est une femme.
Et oui, et on verra très bien la différence avec Vysotsky.
D'accord. Vladimir. À tout de suite. On écoute. Omar, Ihola, Nareya, Ningen, Sabu, Kildir. Bate na areia e desmaia, porque se sente feliz. Até o mar é casado, ai, até o mar tem filhinhos. É casado com areia, ai, os filhos são os peixinhos. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz. Bate na areia e desmaia, porque se sente feliz. C'est très très beau. Je sais pas ce qu'elle dit, Maria Teresa.
Moi non
mais
plus.
Mais c'est magnifique, juste une voix et ça nous touche en plein cœur. On continue avec L'écho fusillé de Vladimir Vysotsky.
В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха. На кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал.
Voilà, donc c'était Vladimir Vysotsky qui chantait L'écho fusillé. On va bientôt devoir se quitter pour cette belle rencontre avec Jean-Paul Villegas, photographe, qui nous vient du village La Manon. C'est joli comme nom.
Oui. J'habite la baronnerie en plus.
La baronnerie. Eh ben, voyez-vous. Respect. Merci de ce partage. Et puis, ben, je ne sais pas ce que vous auriez envie de nous dire avant de nous quitter sur le Sabbath Mater.
Avant de nous quitter, c'est juste, j'ai écouté ces disques que j'ai choisis et qui viennent un peu d'horizons différents. Et je me disais, mais moi, je n'ai rien découvert. Je suis riche de tout ce qu'on m'a à un moment porté. Et je ne peux pas toujours identifier qui m'a donné ça, qui m'a fait découvrir ça. Mais c'est en aucune façon dû à une recherche. Simplement que quand on ouvre les mains, il vous tombe plein de choses dedans. Voilà. Et j'ai passé un bon moment avec Odile. Et voilà, c'était la première fois aussi longtemps à la radio. C'était... Merci.
Merci à vous. Et j'ai envie de... Moi, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, vous entendre parler de la photo, de votre parcours, et... mais aussi la lecture de ces poèmes, de ces poésies. Et je trouve que vous avez vraiment quelque chose de fort pour la lecture de ces poèmes. Et je vous encourage, je ne sais pas si ça fait partie de vos projets, à la lecture comme ça.
Vous me donnez une idée.
Pourquoi pas la chanson, mais en tout cas, vous avez une voix. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Donc, pourquoi pas un diaporama avec des lectures de textes de Jean-Paul Villegas.
Je suis prêt à écouter les idées. Ouais. Et voilà, merci.
On vous retrouve sur votre site. Il y a un site, donc jean-paul-villegas.com.
Mais Google Jean-Paul Villegas, il n'y en a qu'un.
Voilà. Et puis, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous êtes en plein apprentissage de l'anglais, de la langue anglaise, et bravo. Et ça va vous ouvrir encore d'autres portes pour aller exposer.
Oui, ça m'ouvre la porte des hommes, c'est déjà bien.
Hein.
Oui. Merci.
Très bonne soirée, merci. Bonne soirée. Et on écoute donc pour notre plus grand plaisir Stabat Mater. Vous avez envie d'en dire quelques mots?
Ah, c'est une version magnifique d'un Stabat Mater qui a déjà été fait par, écrit par beaucoup de musiciens, mais là, Pergolesi en particulier. Et puis la version René Jacobs avec un enfant, je trouve ça admirable. C'est pour ça que j'ai voulu le porter ici. Voilà.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.